Europe 1,
14h-15h,
on de la raconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un agriculteur français qui a réussi à faire condamner Monsanto, le géant américain des biotechnologies agricoles. Il lui a fallu 3 procès, 15 années de lutte devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire pour que la justice reconnaisse enfin qu'en se penchant sur une cuve de pulvérisation dans sa ferme de Charente, il a inhalé un herbicide appelé Lasso, Monsanto était responsable. Responsable des problèmes notamment de santé qu'il a connus depuis et qu'il connaît toujours. Cet agriculteur, il s'appelle Paul François. Je vous ai déjà raconté son combat l'année dernière, mais il était juste que je termine son histoire et il était juste qu'il soit là pour fêter sa victoire qui date de jeudi dernier. Bonjour Paul François.
Bonjour.
Je suppose que vous êtes heureux de cette victoire.
Oui, heureux. Oui, enfin, en tous les cas, c'est un grand ouf de soulagement, parce que c'est 12 ans de combat.
Il vous arrive de penser à ce que vous disait votre avocat, ça va être long?
Il m'arrive de penser, bien évidemment, ça va être long, coûteux, violent. Il dit souvent, cette violence-là, quand je parle de violence, c'est l'harcèlement de Monsanto. Jamais il aurait imaginé un tel acharnement contre nous. Et ça, on l'avait sous-estimé. Et puis, pardonnez-moi, j'ai une pensée parce que pour mon épouse qui m'a accompagné dans ce combat pendant 12 ans.
Et qui est morte entre-temps.
Voilà, et elle est décédée aujourd'hui, il y a 7 mois, brutalement. Et donc je lui dédie cette victoire parce qu'elle n'était pas pour ce dépôt de plainte, mais elle m'a toujours, toujours accompagné. Ça a été difficile quand on a écrit le livre. La première page, je dis une fois de plus, on a failli se séparer. Et elle m'a suivi jusqu'au bout. Mais c'est elle qui est partie alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit moi qui... Voilà.
Qui s'est emporté par tout ça.
Complètement.
Je vais donc raconter toute votre histoire jusqu'à ce point final en m'appuyant sur votre livre publié chez Fayard, Un paysan contre Monsanto, et on se reparle après. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire se déroule à Bernac, en Charente. Oh, c'est pas bien grand, hein, Bernac. 482 habitants. Un seul nous intéresse aujourd'hui. Un agriculteur, Paul François. Un courageux, hein. Son père était paysan, il n'a pas attendu de prendre la suite. Il a repris une ferme, il a monté son exploitation, et après, quand le père a pris sa retraite, il a ajouté ses terres aux siennes. En tout, ça fait 240 hectares. Du blé, du colza et du maïs. Au début de cette histoire, Paul a 40 ans, une femme, 2 filles, une belle maison, une affaire qui marche, et ça va. Ça va jusqu'au 27 avril 2004. Il s'en souviendra toujours, c'était un mardi. Ce jour-là, il lui est arrivé une drôle d'histoire. Il se lève de bonne heure et il file à son hangar derrière la ferme. Il va traiter son maïs ce matin avec du phyto. Il va faire beau, il n'y a pas de vent, le temps est idéal. Et donc, Paul prépare son pulvérisateur, une sorte de grosse cuve sur 4 roues, avec de grands bras de 15 mètres de chaque côté, qui pulvérise le phyto, quoi. Ah, vous ne savez pas ce qu'est le phyto? Pardon, c'est comme ça qu'on dit dans le métier, le produit phytosanitaire. Un herbicide, enfin, un désherbant, quoi. En l'occurrence, là, pour le maïs, Paul remplit sa cuve avec du Lasso. C'est un herbicide de Monsanto. Ça marche bien, hein? Ça empêche l'herbe de repousser, mais pas le maïs. Que demander de plus? Paul fait sa pulvérisation. Et puis quand il a fini, il laisse le tracteur dans le champ, il part faire autre chose. Et c'est vrai qu'il oublie de lancer le nettoyage automatique. Et puis sur le coup de midi, il revient. Parce que ce soir, il veut traiter le colza. Et pour ça, il faut qu'il rince la cuve. Ça n'est pas le même phyto pour le colza. Alors il ramène la cuve au hangar. Et là, il crame dessus. Il ouvre le couvercle. Et il se penche sur la cuve. Et il prend comme une bouffée brûlante au visage. Et par réflexe, il inspire une deuxième fois.
Pour un concours de circonstances, ce produit était devenu un gaz dans la cuve. Et en ouvrant cette cuve, je l'ai inhalé à plein poumon. Instantanément, j'ai compris que j'avais pris, comme on dit dans notre jargon, j'avais pris une bonne dose et qu'il fallait réagir très vite. Réagir très vite, ça veut dire quoi? On nous l'a appris prendre une douche, enlever ses vêtements.
Et oui, c'est écrit sur tous les bidons de Phyto, laver ses vêtements et prendre une douche. Mais pour ça, il faut aller jusqu'à la ferme, et là, il a des nausées. Alors il se traîne jusqu'à la ferme, il enlève ses vêtements, il se douche, et il va s'étaler sur son lit au premier étage. Et c'est là que sa femme Sylvie le trouve, hagard. Ça tombe bien, elle est infirmière. Mais qu'est-ce que tu as ? Je sais pas vraiment. J'ai respiré la cuve de Phyto. Je me sens faible. Écoute, je t'emmène aux urgences. Sylvie l'aide à marcher jusqu'à l'entrée. Elle lui enfile ses chaussures. Il est tout blanc, les yeux vitreux. Sylvie travaille à l'hôpital de Ruffec. Elle y emmène tout droit. Les urgentistes appellent tout de suite le centre antipoison de Bordeaux.
Oui, bonjour.
Hôpital de Ruffec. Dites-moi, on a un agriculteur qui est intoxiqué de façon aiguë avec un produit qui s'appelle le lasso. Il y a de l'alachlore et du monochlorobenzène dedans.
Ok, eh bien gardez-le en observation, ça va passer. Pas besoin de faire de prélèvement, ça ira. Bonne soirée.
Au bout de 48 heures, Paul rentre chez lui. Enfin, il est tout de même arrêté un mois, hein. Un agriculteur en arrêt maladie, c'est pas tous les jours. Et puis il se remet petit à petit. Et quand l'été arrive, là c'est 15 à 17 heures par jour, il y a un truc qui va pas. Il ne se sent pas bien.
J'étais fatigué, j'avais ces problèmes d'élocution, j'avais des problèmes de concentration, j'ai maigri énormément. Et je me suis inquiété parce que fin août j'avais maigri, mon entourage me disait « mais quand même, t'arrêtes pas de bégayer, tu es irritable ». Mes salariés, collaborateurs me disaient « c'est pas facile à suivre, la Paul il est complètement confus dans ce qu'il nous dit ».
Il a l'impression que sa mémoire s'efface. Et les vertiges, il a des vertiges. Il n'en dit rien à sa femme Sylvie, il ne veut pas l'inquiéter. Et puis c'est pas le genre à s'apitoyer. Mais enfin, en septembre, il va quand même voir son généraliste, qui contacte le centre antipoison d'Angers.
Ah bon ? Ça peut pas être le lasso, non ? Avec ce genre de produit, il y a des effets sur le moment, mais il n'y a pas de conséquences sur le moyen et le long terme. Je regarde la littérature, là. Non, c'est pas ça.
Bon, alors c'est un coup de fatigue. Et Paul retourne dans les champs, et tous les jours, c'est pire que la veille. Ces maux de tête terribles, et puis ces trous noirs. À la fin du mois de novembre, le 29, Paul sent que sa nuque est raide. Raide ! Sylvie pense à une méningite. Elle le fait hospitaliser d'urgence.
J'ai été, excusez-moi du terme, trimballé d'hôpital en hôpital, parce qu'on n'arrivait pas à trouver quels étaient... Les symptômes étaient là, mais on ne trouvait pas l'explication. Tout est envisagé, mais à chaque fois qu'on parle de l'hypothèse de l'intoxication, les médecins nous disent « Écoutez, monsieur François, quand les centres antipoisons nous disent que tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de raison. » Ah, c'est un discours rassurant, c'est de dire en tous les cas tout, sauf la piste intoxication. Autre explication qui est avancée, peut-être qu'il y a une conséquence de votre intoxication, mais plutôt d'ordre psychique parce que ça a été un choc pour vous, plus le surmenage que vous avez sur votre exploitation, on peut estimer que tout ça est d'ordre plutôt psychiatrique parce que nous ne voyons rien dans vos examens.
Puisque ça serait... psychiatrique. Eh bien, va pour une psychothérapeute. Elle est formelle. Oui, il fait une petite déprime, mais c'est à cause de son état de santé, pas l'inverse. Et après, commence la valse des hôpitaux. Ruffec, Poitiers, Angoulême, Paris, IRM, échographie, électrocardiogramme, examens divers et variés, on ne trouve rien. Et pourtant, lui, il va mal, il fait des malaises tout le temps. Si ça continue, c'est son cœur qui va lâcher. Mais il ne trouve rien. Alors Paul rentre chez lui. Tant qu'à crever, autant crever chez soi. C'est ça qu'il pense. Remarquez, ça lui fait du bien de voir la ferme, d'aller faire le tour de ses champs, de voir ses filles, Laura et Amandine. Ça lui fait du bien. « Mais le lundi de Pâques 2005, Paul déclenche une nouvelle crise. Retour à l'hôpital. Et là, par miracle, on a l'idée d'envoyer des échantillons de son sang et de ses urines au centre antipoison et de demander une analyse fine. Parce que jusqu'ici, il a toujours parlé pourtant de cette histoire de l'assaut, de ce qui lui est arrivé au-dessus de la cuve. Mais personne n'a jamais pensé à chercher des traces de l'herbicide l'assaut dans son sang. Et il y en a à de sacrées doses. Au point que, tenez-vous bien, celle-là, elle est énorme, le toxicologue d'Angers ose envisager que peut-être Paul se shoote au phyto. Si, si, on le soupçonne de se droguer avec de l'herbicide. Une drogue de pécor, sans doute. Eh bien oui, c'est bien connu. Les agriculteurs se shootent au désherbant. On ne croit pas ce qu'il raconte. On ne croit pas qu'il s'est penché sur la cuve, qu'il a inhalé du lasso par accident. Mais bon, ça n'est pas le sujet. On a trouvé du lasso dans son sang, mais ça n'est pas grave, puisque le lasso n'est pas dangereux. En attendant, c'est un homéopathe qui remet Paul sur pied. Moi, je pense qu'un traitement à base de micro-algues, je pense au chlorella, pourrait avoir un effet très positif. Paul se met donc à gober des micro-algues, et un mois plus tard, il est sur pied. Il retrouve la mémoire, il arrête de bégayer, il ne fait plus de malaise. Et je dis ça, je ne suis pas moi-même adepte de l'homéopathie, mais c'est ce qu'il dit. Il va mieux. Mais maintenant, il veut comprendre. Et là, c'est toute la famille qui se mobilise, son frère notamment, Patrick, qui va voir un biochimiste à Paris, lequel l'oriente vers un expert.
André Picot, qui était chercheur au CNRS, dit... Ouh là là, quand je vois la composition de ce produit, je suis inquiet. Certes, il n'est pas normal que Paul François ait des problèmes de santé aussi longtemps après, mais il n'empêche que quand je vois ces symptômes, ça ressemble à l'intoxication au monochlorobenzène.
L'expert toxichimiste appelle alors le patron du Centre d'information toxicologique d'Île-de-France. Il le connaît.
De quel produit est-ce que vous parlez ?
Du Lasso, L-A-2-S-O, de chez Monsanto.
Ah, Monsanto. D'accord. Rappelez-moi demain.
Et après sa traîne, Patrick le frère a alors l'idée de taper dans Google, côte à côte, le nom du toxichimiste en question qui a eu l'air si gêné et le nom de Monsanto. Et là, il s'aperçoit que le bon docteur... a participé il y a 6 mois à un colloque organisé par Monsanto. Il en conclut qu'ils sont de mèche. Copains, coquins. Sylvie aussi, la femme de Paul, se mobilise. Elle appelle le siège français de Monsanto en banlieue lyonnaise. Oh, mon mari va vraiment très mal. Je me dis que vous avez peut-être un antidote.
Oh non, non. On n'a jamais eu de problème, vous savez. Mais si un malheur arrivait, nous serions évidemment là pour assumer.
Ce que Sylvie croit comprendre, c'est que s'il y a un malheur, Monsanto est surtout prêt à payer pour que Paul ne fasse pas de vagues. En juillet 2005, 15 mois après l'accident, Paul va mieux. Mais il a toujours ses maux de tête. Son généraliste lui conseille alors de se rapprocher de la MSA, la Sécu des agriculteurs.
C'est une maladie professionnelle, hein. Tu peux pas travailler à plein temps, ça c'est la réalité. Donc tu dois pouvoir être indemnisé.
Paul fait la demande.
Je me souviens très bien du premier rendez-vous avec le médecin conseil de la MSA et qui me souriait au nez en disant « Mais monsieur François, pourquoi vous voulez être maladie professionnelle ? De toute manière, c'est pas lié à l'utilisation des pesticides, ce qui vient de vous arriver. » Alors j'ai attendez, l'accident du travail a bien été reconnu en tant que tel. Là, on me dit 9 mois d'arrêt de travail et 5 mois d'hospitalisation. Au bout des 5 mois, on a fait le lien avec l'intoxication. Et vous me dites que ça n'a rien à voir et je ne peux pas être reconnu maladie professionnelle. Non, parce que vous ne rentrez pas dans les tableaux. Et puis, qu'est-ce que vous avez besoin, vous aussi, de savoir si c'est professionnel, pas professionnel, puis si vous ne pouvez pas travailler. Elle le voyait de son bureau, vous avez une exploitation céréalière importante, les affaires marchent bien, est-ce que vous avez vraiment besoin de travailler comme si, voilà.
En octobre 2005, la Mutualité Sociale Agricole refuse d'indemniser Paul au-delà de ce qui a déjà été fait. Et ça, Paul, ça le met en pétard. Et c'est là qu'il décide de prendre un avocat et de porter l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Et il se choisit Maître François Laforgue, qui a défendu les victimes de l'amiante. Et pendant ce temps, il accumule les arguments contre Monsanto. Il va notamment en Belgique, où le lasso de Monsanto est interdit depuis 1991. Il veut savoir pourquoi. Et donc il va consulter le dossier au ministère de l'Hygiène et de la Santé. Et là, il s'aperçoit que le lasso n'est pas interdit qu'en Belgique. Il est interdit au Canada depuis 1985. Et depuis 1992, aux États-Unis, la patrie de Monsanto. Et il se dit, si les Américains l'ont interdit, c'est que ça doit être sacrément dangereux. C'est le déclic. Il en parle tout de suite à son avocat. Moi, je me dis, là, on se bat pour obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Mais est-ce qu'il faudrait pas porter plainte directement contre Monsanto, hein? Évidemment, c'est possible. Mais vous vous embarquez dans quelque chose de très lourd, hein. Des années de procédure, ça va coûter beaucoup d'argent. Et en face, attendez-vous à ce qu'il sorte le grand jeu. Il s'en fiche. 3 ans jour pour jour après l'accident, en avril 2007, Paul François dépose une plainte contre Monsanto devant le tribunal civil de Lyon. Et complètement par hasard, 4 jours plus tard, le lasso est retiré du marché européen, et donc de la France. Pure coïncidence. Ensuite, Paul marque un point quand en novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême estime que ses problèmes de santé actuels, ses rechutes, sont liés à son accident du travail. La Mutualité Sociale Agricole doit l'indemniser. La MSA naturellement fait appel, mais en appel c'est confirmé. La MSA doit lui verser 169 euros d'indemnité par mois. C'est pas grand-chose, mais c'est une première victoire, encourageante. Et maintenant, Paul et son avocat peuvent se concentrer sur leur grand combat, leur plainte contre Monsanto. Le procès devant la chambre civile du tribunal de Lyon s'ouvre le 11 décembre 2011. Maître Laforgue est à la manœuvre.
Monsanto n'a pas fourni les renseignements indispensables à l'usage du lasso. Monsanto n'a pas averti les utilisateurs des précautions à prendre alors que le produit est dangereux.
Et la décision du tribunal est historique.
Ce paysan de Charente remporte son bras de fer contre la puissante firme américaine Monsanto. Il en a les larmes aux yeux.
Je suis ému parce que je pense à ma femme, à mes 2 filles, qui ont toujours soutenu, même quand des fois ça pourrissait notre vie familiale. Et aujourd'hui, on l'a prouvé, la justice le reconnaît, mais au moins ça a été dit au grand public que cette société avait menti. Et si elle m'a empoisonné, elle en a empoisonné d'autres.
Il a gagné. Il va être indemnisé. Ah ben non, pas tout de suite. Monsanto fait appel. Tout est à recommencer. Il en faut de l'énergie quand on est une victime. En attendant, c'est décidé, hein. Paul saute le pas. Il ne veut plus utiliser de phyto. 10 ans après son accident, il décide de convertir une centaine d'hectares en bio. Et je peux vous dire qu'à la maison, c'est la fête, hein, depuis le temps que les 3 femmes de sa vie le tannaient pour qu'il passe au bio. Eh bien, c'est fait. Le procès en appel arrive en mai 2015. Et une fois de plus, la justice dit « Monsanto a commis une faute ».
Vous avez réussi à faire plier un géant américain intouchable jusqu'à présent. Comment vous sentez-vous d'abord ce soir ?
Je me sens soulagé. Soulagé parce que c'est 8 ans de combat, c'est 8 ans de bataille quotidienne, d'un harcèlement qu'on a subi de cette société, de doutes parfois sur le bien fondé, hein, de tout simplement de mon combat. Ça prouve qu'en France, la justice est indépendante parce que j'imagine bien qu'une telle firme comme Monsanto est capable d'exercer des pressions et on peut être fier de notre justice. En tous les cas, ce soir, moi, je suis très fier de cette décision.
Mais évidemment, Monsanto et ses bataillons d'avocats ne lâchent pas le morceau. En novembre 2016, la firme se pourvoit en cassation. Et elle gagne, figurez-vous. Pas sur le fond, hein. La Cour de cassation se fiche du fond. Elle casse le jugement sur une faute de procédure. L'intitulé des poursuites contre Monsanto, ça n'était pas le bon. Il y aura donc un troisième procès. Ça n'en finira jamais. En attendant, en juin 2017, Paul-François entre à l'hôpital d'Angoulême pour l'ablation d'un nodule à la thyroïde. Opération bénigne. Et son système immunitaire est tellement en vrac qu'une perfusion lui provoque une septicémie. Suite une deuxième infection et une cascade d'autres infections. 5 en tout. L'été 2017 est une nouvelle épreuve. Et au nom de la loi de l'emmerdement maximum, chienne de vie, en septembre 2018, Paul perd sa femme, Sylvie. La femme de sa vie, qui l'a accompagnée pendant tout son combat. Rupture d'anévrisme. Le troisième procès civil contre Monsanto s'ouvre le 6 février 2019. La décision du tribunal tombe le 11 avril. Ouf ! Ça y est ! Il a gagné ! 15 ans après, presque jour pour jour, il a gagné. Avec Monsanto et son armée d'avocats, on n'est jamais au bout de surprise, mais normalement, c'est définitif. Le pot de terre a fracassé le pot de fer.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Et après la victoire, nous voilà donc avec vous, Paul-François. Je rappelle le titre de ce livre qui est toujours disponible et dont la lecture est très édifiante, qui s'appelle « Un paysan contre Monsanto » chez Fayard. Alors, ce que dit le tribunal maintenant, c'est que Monsanto doit vous indemniser. Mais je n'ai pas lu dans le jugement rendu jeudi dernier de montant. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour fixer le montant de l'indemnisation ?
Alors effectivement, le tribunal n'a pas souhaité fixer le montant des indemnisations alors qu'il avait matière à le faire. Mais Monsanto, stratégiquement, avait refusé au moment au 6 février dernier, quand nous avons plaidé, de conclure sur cette partie-là, sur ce volet-là. Et donc la présidente nous avait répondu que sur le fond, ils allaient étudier le dossier, bien évidemment, mais que sur la partie indemnisation-réparation, il faudrait une autre procédure. Et donc à partir d'aujourd'hui, commence effectivement une autre procédure.
L'indemnisation est acquise.
Alors,
le principe est acquis.
Voilà, le principe de l'indemnisation est acquis. Mais maintenant, nous allons déposer nos conclusions avant le 27 juin. On a les dates, on a les dates avant le 27 juin et on espère que le tribunal pourra statuer avant la fin de l'année sur le montant des réparations, sachant aussi que Monsanto va certainement tenter
de minorer,
bien évidemment, mais de toute façon, ils vont aussi tenter, à mon avis,
de faire annuler le procès, le jugement.
Donc, ils vont encore gagner du temps. Alors, on dit Monsanto, pas oublier que c'est Bayer qui est propriétaire de Monsanto.
On dit que c'est américain, en vérité, c'est allemand.
Maintenant, c'est allemand, exactement. Et donc, on va voir si... je reprendrai les propos tenus par mon avocat qui a dit, effectivement, et je suis d'accord avec lui quand même, que cette firme Bayer sortirait grandie de dire maintenant, stop. On a utilisé toutes les voies judiciaires et maintenant, stop.
On reconnaît, on est correct.
On laisse la justice fixer le montant de l'indemnisation et on paye.
Qu'est-ce qu'on inscrit dans la démonstration que vous devez être indemnisé ? On fait l'addition de quoi ?
Votre question est très intéressante parce que j'ai entendu certains de vos collègues dire « mais aux États-Unis, c'est plusieurs centaines de millions de dollars,
ah oui,
alors
là
c'est
vous,
le système... »
Voilà. Vous pourriez vous acheter 14 châteaux.
Et voilà, exactement. Mais ici en France, on doit argumenter point par point. Le plus gros préjudice, il est sur mon exploitation, parce que mon exploitation fonctionnait bien. Il a fallu tout réorganiser à l'époque, j'étais absent pendant près d'un an. Et donc le plus gros préjudice, il est sur l'exploitation. Et moi, je n'ai pas peur de parler des chiffres. Il y a autour de 750 000 euros par rapport à l'exploitation. Après, il y a le préjudice moral, le préjudice physique. Et tout ça pour en arriver à une somme d'autour d'un million d'euros.
Hein, c'est, qui est votre demande aujourd'hui ?
C'est notre demande.
Étayée
point par point. Mon avocat a aussi dit, nous ne sommes pas le genre de cabinet à dire on va demander 10 fois plus pour en avoir 10 fois moins. On donne point par point les éléments Alors, on verra bien ce que va décider la justice, mais j'ai envie de vous dire, peu importe le montant. Premièrement, déjà, il fallait que Monsanto soit condamné, ils sont condamnés, et puis qu'ils me donnent 500 000, 1 million, 1 million et demi. Peut-être, ça serait comme aux États-Unis, ça ne réparera pas. Ça ne réparera pas les séquelles de l'intoxication et ça ne réparera pas non plus les 12 ans de procédure contre Monsanto. L'argent ne remplacera pas tout.
Est-ce que vous êtes tenté de rajouter à ce préjudice le décès de votre femme? C'est une rupture d'anévrisme.
Oui.
On sait que ces choses-là sont dues souvent à des fatigues, à de l'épuisement. Est-ce que vous le portez au débit de cette histoire?
Je pense que ça en fait partie. Ça en fait partie. Elle était fatiguée, elle était directrice d'un EHPAD et forcément avec 70 salariés, 99 résidents, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Mais cette procédure et les conséquences de cette procédure, pour elle, ça devenait insupportable. Quelques jours avant, parce que vous savez, les banques, il vaut mieux garder un gros client et perdre des petits clients comme moi. Ils avaient fait le choix et donc à nouveau, c'était compliqué avec les banques. Forcément, ça avait des conséquences sur notre couple.
Il y avait du stress à la maison.
Et du stress et ouais. Tout ça. Alors, ça a certainement contribué à sa rupture d'anévrisme. Et c'est pour ça que je suis ému et on peut que lui dédier
cette victoire.
Cette victoire.
Question peut-être indiscrète, mais je pense que beaucoup de gens se disent « Mon Dieu, attaquer Monsanto, il doit falloir avoir les moyens. » Alors vous êtes ce qu'on appelle un gros céréalier, vous n'êtes pas un petit paysan qui a le SMIC tous les mois ou même pas. Ça vous a coûté combien cette procédure?
Alors malgré le fait qu'effectivement j'ai pu me permettre de faire des prélèvements sur l'exploitation au départ de cette procédure, vous avez complètement raison, parce que la justice a un coût. Mais il y avait aussi que mes avocats ne m'avaient pas demandé de régler leurs honoraires par avance, ce qui était important.
Ils se serviront sur les indemnités.
Voilà, et ce qui nous a permis quand même de lancer la procédure. Par contre, tous les frais annexes qui se montaient à plus de 70 000 euros, il fallait quand même les financer. Et à un moment donné, je ne pouvais plus payer. Et donc, heureusement, on a fait une cagnotte sur OKPAL il y a 2 ans. Et il y a 2000 contributeurs et contributrices. Et peut-être, d'ailleurs, on pourrait mettre contributrices en premier parce que...
Il y avait surtout des femmes?
Il y a surtout des femmes, peut-être, effectivement, qui se sentent concernées. C'est souvent, d'ailleurs, les femmes qui nous alertent sur ce genre de situation. Et heureusement qu'il y a eu ce financement parce qu'à un moment donné, autant Monsanto a des moyens infinis et nous, effectivement, même avec une exploitation, mais à un moment donné aussi, ma femme pouvait me dire « Mais attends, et si je n'avais pas eu son salaire ?» Et elle gagnait bien sa vie, eh bien, s'il n'y avait pas eu son salaire, on n'aurait peut-être pas pu le faire, parce qu'on pouvait se permettre de vivre uniquement avec son salaire. Mmh. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il va falloir aussi que les politiques réfléchissent. La justice fonctionne en France, la preuve, mais à quel coût? Et c'est le plaignant qui doit financer. Peut-être réfléchir, ça veut dire que si on n'a pas les moyens...
Quand on s'attaque à un géant comme ça...
Il faut être tenace, mais il faut avoir des moyens financiers. Et heureusement qu'on les a trouvés.
Il faut que je vous demande à un moment... Comment ça va? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il vous arrive de ressentir des conséquences de cette inhalation de l'asso?
Oui, bien sûr qu'il est... Bien sûr.
Alors sous quelle forme?
Sous quelle forme? Sur les formes avant tout de céphalées, les lésions qui sont
toujours
apparentes.
Toujours ces maux de tête. Là.
Voilà, ces maux de tête. Et puis, mes fonctions immunitaires sont complètement perturbées. Et il y a quelques jours, je n'aurais pas pu, si le délibéré avait eu lieu une semaine plus tôt, je n'aurais pas pu être présent pour ce délibéré parce que j'étais cloué au fond de mon lit, parce que suite à une blessure bénigne, tout s'est infecté, la blessure s'infecte, une perfusion s'infecte, et j'ai développé à nouveau ces infections. Ça a été 3 semaines d'arrêt de travail, mais en 2018, j'ai été arrêté 2 mois suite à des problèmes d'infection, et en 2017, c'était 4 mois. Donc ça, c'est des séquelles que j'aurai à vie. Les céphalées, elles sont là. Quand la température monte pour des problèmes d'infection, c'est une chaîne infernale qui se met en route, pression intracrânienne, donc les céphalées sont violentes, et il faut vivre avec cette épée de Damoclès en permanence sur la tête.
C'était il y a 15 ans, vous avez refait des tests sanguins depuis? Est-ce qu'il y a toujours la trace du lasso dans votre sang?
Non.
Et dans vos urines?
Dans mes urines et dans mon sang, depuis 2007, il n'y a plus du tout de trace chimique de ce produit dans mon sang.
Ah oui, vous le savez, dans votre histoire, il y a un passage qui ne vous rend pas service, mais en même temps, vous avez eu l'honnêteté de le raconter comme ça. Vous dites que c'est allé mieux par l'homéopathie. Et comme là, ces derniers temps, l'homéopathie en a pris plein la gueule, mm-hmm. et qu'il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour soutenir l'homéopathie en France, on doute à ce moment-là, on se dit « Ah bon, ben tiens, c'est la preuve que les problèmes de Paul François sont psychosomatiques. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, je réponds, un petit bémol, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans le livre. Alors, c'était plus que de l'homéopathie. Cette algue, qui est de la chlorella, avait été utilisée d'ailleurs sur le président Yonchenko, qui était le président ukrainien empoisonné à la dioxine. Et c'était suite à un conseil de l'homéopathe, mais le professeur Picot, qui avait été appelé au chevet du président Yonchenko, avait dit « Les Suisses, les médecins suisses, sont en train d'utiliser cette algue qui a la faculté d'avoir un pouvoir chélateur, de fixer la molécule et de l'évacuer par les voies naturelles. »
Peut-être qu'il est temps de vous poser la question, puisque l'histoire est bouclée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait? Comment est-ce que vous raconteriez les choses? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est-à-dire, vous ouvrez la cuve. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il s'est passé que la cuve est restée au soleil et que donc, il s'est créé un gaz.
Voilà, ce qui n'est pas normal, en tous les cas. Pourquoi ce gaz s'est formé? Parce qu'il était mélangé à de l'eau, que le monochlorobenzène qui rentrait dans la composition de ce produit était certes indiqué en petit, il y avait marqué présence de monochlorobenzène, mais il n'était pas indiqué qu'il y en avait 50%. Et nous, c'est le principe actif, l'alachlore, que l'on a appris à utiliser. Et ce monochlorobenzène est mélangé avec de l'eau et avec de la chaleur, devenait un gaz. Monsanto ne pouvait pas ignorer.
Et ça n'était écrit nulle part.
Ça n'était écrit nulle part. Donc,
mais vous aviez déjà fait ce geste d'ouvrir la cuve après avoir laissé la cuve au soleil quelque part?
Non, voilà, il y a eu un concours de circonstances. Mais si sur l'étiquette, ça avait été dire « Attention, dans telle circonstance, vous devez vous équiper d'équipements », alors que je les avais, ces équipements, je les aurais pris, bien évidemment. J'aurais pris un masque, et j'aurais pris d'autres précautions. Parce que ma vie d'avant et ma vie d'après, je me serais bien passé de tout ce qui s'est passé, des séquelles qu'il y a aujourd'hui, d'une telle procédure, parce que je me passerais bien d'être, même si je suis très bien accueilli à Europe 1, mais je me serais bien passé, parce que ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui n'a rien à voir.
Ce qui vous est arrivé, c'est que donc, ce herbicide s'est transformé en gaz, et à l'ouverture de la cuve, vous avez donc inhalé un produit que vous n'auriez jamais dû inhaler.
Exactement, et ce qui a été prouvé par les experts, c'est qu'en inhalant ce gaz, et du fait qu'il est mélangé avec de l'alachlore, et quand même 12 éléments chimiques qui n'apparaissaient nulle part.
Sur l'étiquette.
Ces produits s'est stocké dans les corps adipeux, c'est-à-dire les corps gras du corps. Or, c'est comme ça que ce mécanisme a fait qu'en étant stocké dans les corps adipeux et que la graisse les rejetait au fil des mois quand je maigrissais, ça repassait dans le sang et surtout allait se fixer sur le système nerveux central, au cerveau, et les conséquences sont venues de cette façon-là. Et là, il a fallu que ça soit prouvé par des experts, des scientifiques. Bien sûr, les consultants de Monsanto nous disaient que ces experts n'y connaissaient rien.
En vous voyant leur raconter tout ça avec des mots très techniques, etc., je me dis qu'en 15 ans, vous avez dû faire des progrès en médecine, en biochimie, en processus gazeux.
Dans le livre, je dis que j'étais le dernier à l'école. J'avais quand même le privilège d'avoir doublé 3 fois avant la 5e. Effectivement, il a bien fallu que je me
forme. On apprend.
Mais la méthode... Je suis curieux de nature. J'aime bien apprendre. Alors, je ne l'ai peut-être pas toujours fait à l'école. Là, cette méthode-là, je m'en serais bien passé parce que je l'ai appris à mes dépens.
Bon, là, la belle histoire dans cette histoire, c'est votre conversion au bio. Vous qui étiez un céréalier classique et pur et dur jusqu'à ce qui vous est arrivé. Vous racontez dans le livre, et je l'ai raconté à mon tour dans mon histoire, que sur les 240 hectares de votre propriété, vous choisissez d'en convertir 100 au bio. Est-ce que ces 100-là sont toujours cultivés en bio? Est-ce que vous avez agrandi le territoire du bio?
Alors bien évidemment, ces 100 hectares sont toujours en bio et maintenant la totalité de la ferme, les 240 hectares, sont menés en agriculture biologique.
Il n'y a plus un phyto?
Il n'y a plus un phyto sur la ferme, effectivement.
Ça veut dire que vous utilisez quelle technique pour désherber?
On travaille avec des techniques à la fois mécaniques, c'est-à-dire des systèmes d'hercétrie, bineuses de haute précision. C'est du travail qui peut se faire avec tous ces outils-là.
Ce sont des machines.
Ce sont des machines. Et puis, parfois, sur certaines cultures, on fait du haricot vert, par exemple, de consommation. On est obligé de faire un travail manuel. Donc, on fait appel à des saisonniers qui sont très contents, d'ailleurs, de venir travailler, comme autrefois pour les vendanges. Ça permet à des étudiants de se faire un peu d'argent. Ça permet à des chômeurs que souvent... On stigmatise en disant ce sont des feignants. Eh bien, au moment où je vous parle, dans une parcelle de production de betteraves, nous sommes en train de travailler sur le rang, enlevé à la main. Ce ne sont pas des esclaves, parce que des fois, on dit « Oh, mais c'est quoi ce travail manuel ?» Eh bien, écoutez, quand les journalistes viennent leur poser des questions, ils disent bah, « Heureusement qu'on a ce genre de petit boulot, parce que déjà, ça nous permet d'avoir un lien social. » C'est-à-dire que ce que je mettais dans le phyto avant...
Je le mets dans l'homme.
Je le mets dans
le social. Ça vaut plus cher, l'homme, que le phyto, non?
Alors, ça ne vaut pas forcément toujours plus cher, malgré les apparences. Mais par contre, c'est plus facile de vous faire un bon de commande pour acheter des phytos que de faire des contrats de travail. C'est vrai que c'est de la contrainte. Et puis, de toute façon, quand des fois ça me coûte plus cher, comme je vends mes produits beaucoup plus chers en bio, la rentabilité, elle est au rendez-vous. C'est quelque chose qui me faisait peur parce que je disais, Techniquement, je n'ai pas appris à faire du bio et je ne me sens pas sur 240 hectares capable de faire du bio. La belle surprise sur les premiers 105 hectares qu'on avait passés en bio, techniquement avec mes deux salariés, Yannick et Cyril, qui ont joué le jeu avec moi, quand on a vu comment ça se passait bien techniquement, la rentabilité était au rendez-vous, donc on a dit, on fait tout en bio, ça sera beaucoup plus facile et la rentabilité est là.
Par exemple, sur le blé et le colza, sur un hectare, avec le phyto, vous sortiez, par exemple, vous le savez, vous les avez en tête tous ces chiffres, vous sortiez combien de blé? Et combien vous en sortez aujourd'hui en bio?
Avant, on était entre 6 tonnes et demie et 7 tonnes en agriculture chimique, et aujourd'hui, on est entre 5 tonnes et 5 tonnes et demie.
Donc c'est un peu moins?
C'est un peu moins. D'un côté, on le vend entre 150 et 160 euros en chimique, et de l'autre côté, on le vend 500 euros la tonne.
Donc c'est plus profitable?
Bien sûr que c'est plus profitable. Beaucoup mieux, oui, les chiffres sont là.
Mais personne ne vous avait jamais expliqué ça avant? Il a fallu que vous le découvriez vous-même?
Si, je le savais, mais je disais, est-ce que moi, je vais être capable de le faire? Est-ce que, voilà, trop vieux...
C'est pas ma culture, quoi.
Voilà, j'ai tellement été formaté dans le chimique, parce que c'est dans sa tête aussi, d'un seul coup. La chimie, ça, je le dis dans le livre, la chimie a apporté des solutions à tout. Donc d'un seul coup, il faut qu'il y ait un déclic dans votre tête. Quand je vois la réussite que l'on a, et c'est aussi une liberté, parce qu'aujourd'hui... j'ai connu ça. Quand vous êtes lié avec vos fournisseurs, vous êtes obligé de racheter des produits. Aujourd'hui, j'ai cette liberté. Je suis redevenu un vrai agriculteur, libre sur mes terres, et je revois la flore, la faune revivre. C'est beaucoup de fierté.
Vous êtes en train de m'expliquer qu'au final, vous gagnez mieux votre vie avec le bio que vous ne le gagnez avec le chimique?
Oui. Oui.
Beaucoup mieux?
Beaucoup mieux. Le colza, vous m'avez parlé du colza, c'est une culture très compliquée en agriculture biologique. On produit plutôt, quand on produisait 3 tonnes et demie, aujourd'hui on est entre 1 tonne et demie à 2 tonnes et demie, parce que c'est très variable, mais on le vend 3 fois plus cher aussi. Et puis il y a des cultures...
C'est-à-dire, vous voyez concrètement du changement dans le vivant de votre exploitation?
Le plus flagrant, c'est les sols. Les sols sont en train de revivre. Les vers de terre. Les abeilles, j'en ai jamais autant vu. On a replanté des haies, parce que c'est aussi tout un format... Il faut réfléchir de façon globale, donc les rotations sur les cultures sont plus longues, les intercultures, il faut mettre en place pour produire de l'azote naturellement. Et quand je vois aujourd'hui la flore et la faune qui se développent sur ma ferme, c'est une très très belle surprise et beaucoup de fierté aussi.
Vous avez fait des adeptes? Il y a des gens qui se sont convertis après vous?
Alors peut-être, ce que je sais c'est qu'au départ, bon, on regardait avec un peu d'ironie, puis beaucoup disaient... De toute façon, il n'a pas le choix avec son combat, il faut qu'il passe au bio. Puis maintenant, quelques-uns nous posent des questions en disant, vous savez, les agriculteurs, en passant au bout d'une parcelle, ils sont capables d'estimer les rendements. Et je prends une anecdote, c'est qu'un de mes salariés me disait, au moment de la récolte des tournesols, les collègues disant, mais vos tournesols, là-bas, ils sont en bio? Oui, forcément, ils sont en bio. Ouais, mais les rendements? Les rendements étaient quasiment identiques avec du conventionnel, sauf qu'on vend 3 fois plus cher. Et donc là, ça commence à parler. S'ils ne sont pas convaincus, ils disent « mince, et si lui y arrive, et pourquoi nous, on ne le ferait pas ?»
Vous êtes à la FNSEA?
Non, c'est dommage que ce syndicat, mon père fait partie des fondateurs de ce syndicat, il est décédé. J'ai adhéré il y a très longtemps à ce syndicat. C'est dommage qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'on a vraiment une carte à jouer pour sauver notre modèle agricole à travers une agriculture qui se passerait. Je vais éviter le mot bio, mais une agriculture qui irait sans le...
Raisonner,
avec moins de pesticides, avec de la qualité et en allant... vers du bio, on ferait un sacré modèle et ça sauverait notre agriculture en France.
Merci infiniment, Paul-François, d'avoir débriefé cette histoire et posé avec nous le point final de ce combat. Il vous en reste un autre, celui de croître, d'être heureux et de retrouver enfin un équilibre à partir de cette victoire contre Monsanto. Merci infiniment de nous avoir confié votre histoire, que j'ai tirée donc de ce livre que vous avez publié chez Fayard, Un paysan contre Monsanto.
Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.